it. Maravilhoso. Amen. Lord, that's you. Was that my sis? Si vous voulez l'heure juste, je ne l'ai pas. Amen. Gloire à Dieu. Sans être trop intentionnel, je finis ce matin une série de trois prédications, deux que je vais donner auparavant les dernières deux fois, concernant les enfants d'Israël. Et on parlait en premier lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte et qu'ils sont rendus dans une place qu'on peut appeler des cul-de-sac. Il y a des cul-de-sac dans nos vies aussi, de ce que la mer est devant nous. Les Israélites, la mer était devant eux autres, en arrière c'était les ennemis, les montagnes entre eux autres, ils étaient poignés, ils étaient pris. Et puis, c'était un cul-de-sac, c'était l'impossibilité pour eux autres. Et puis, nous autres aussi, dans notre vie, on peut avoir des cul-de-sac. Mais on réalise que Dieu a intervenu. Dieu est venu, Dieu a délivré le peuple d'Israël et Dieu va toujours délivrer son peuple. Et on a regardé cela ensemble, puis deuxième prédication était sur le fait que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu l'ennemi qui venait, et ça nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Alors, l'importance de la prière concertée, c'est-à-dire la prière ensemble, la prière en église, la prière lorsque deux ou trois, la prière aller chercher quelqu'un, vous avez un fardeau et prier, peux-tu prier avec moi? Et l'importance d'être ensemble, l'unité de la prière, la force dans l'unité d'une prière. Et on a vu ça dans les enfants d'Israël. Et ce matin, on va parler un petit peu de monuments, des moments, si vous voulez, des moments monumentaux dans nos vies, dans la vie des Israélites également. Et alors, on va prendre le temps, premièrement, de lire Josué chapitre 4, versets 20 à 24, pour commencer. Josué chapitre 4, versets 20 à 24. Êtes-vous prêtes? On se lève-tu pour lire la parole ce matin? Versets 20 à 24. « Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres? » Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu nous fais du bien par la vérité de ta parole. Seigneur, fortifie-nous dans l'homme intérieur aujourd'hui. Merci Seigneur que tu le fais. Merci que tu es ici. Merci Seigneur que tu es là pour nous remplir, nous satisfaire dans le plus profond de nos êtres. Et alors, fais-le, Seigneur, dans chaque personne ici, dans ce lieu, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Puis vous asseoir. Des moments monumentaux. Et vu que nous allons parler un peu à propos des monuments. Alors, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter d'un couple qui ont nommé leur fils Bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont nommé leur fils Bizarre. On nous dit que tout le long de son éducation à l'école, on riait, on se moquait de son nom. Pauvre petit gars. Lorsqu'il a devenu un homme, il a marié une belle femme et a élevé une belle famille. Lorsque Bizarre a eu 70 ans, il dit à sa femme qu'il n'a jamais vraiment aimé son nom. Ne blâme pas. Il lui demande que lorsqu'il meurt, de graver sa date de naissance et sa date de mortalité sur la pierre tombale. Sa date de naissance, sa date de mortalité sur la pierre, sur sa pierre tombale, mais de ne pas mettre son nom. Et alors, quelques années plus tard, Bizarre mourut et sa femme l'a enterré et a fait graver sur sa pierre tombale sa date de naissance et sa date de mortalité comme il lui avait demandé. Mais cela a servi à rien du tout. Même jusqu'à ce jour, les gens qui passent sa pierre tombale disent « Hey, c'est bizarre! » C'est ça que c'est. Mais on va regarder d'autres sortes de monuments ici qu'on voit dans Josué 4, lorsque Josué a bâti une pierre d'où ce qu'ils peuvent vraiment se souvenir de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et alors Israël a reçu beaucoup de moments monumentaux dans leur vie, et si vous y pensez, nous autres aussi. Mais quel moment pour eux autres lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge à sec. Wow! Quel miracle dans leur vie! Et l'impression que ça a donné pour eux autres, pour leurs enfants, que ça va donner dans les générations à venir jusqu'à aujourd'hui. Wow! Qu'est-ce que Dieu a fait à la mer Rouge? Il a rendu sec afin que les enfants d'Israël traversent. C'était un moment monumental pour eux autres, traverser également le Jourdain à sec, qu'on vient de lire ici aussi. C'était un phénomène, c'était des moments phénoménaux, qu'on peut dire, dans leur vie. Et on sait qu'au Jourdain, les sacrificateurs se tenaient au milieu de le lit de la rivière à sec, pendant que des centaines de milliers de Juifs, de personnes se sont précipitées de l'autre bord. Ils ont couru de l'autre bord. On nous dit qu'il y avait à leur tête 40 000 soldats qui étaient là et qui sortaient à sec et les conduisaient l'autre bord du Jourdain. Après la dernière personne se s'est rendue, on peut dire le dernier traîneux a traversé, on sait que Josué envoie 12 hommes forts retourner à la rivière sec et 12 hommes forts pour soulever des grosses pierres, une pierre chaque sur leurs épaules et les ramener de l'autre bord, les ramener à Josué. Et ensuite, on nous dit que les sacrificateurs, les derniers à sortir, les sacrificateurs ont sorti et tout de suite, les eaux se sont envahies, ont envahi le lit sec de la rivière. Et ça finit là. Quel miracle! Et les enfants d'Israël étaient finalement arrivés à la terre promise. Finalement, ils étaient là. Ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Et les enfants d'Israël étaient littéralement au Canaan. Ils étaient là, ils étaient arrivés pour plus jamais retourner en arrière. Alléluia! Plus jamais retourner en Égypte. Pour jamais retourner à leurs anciennes vies. Est-ce que ça vous fait rappeler quelque chose? Amen. Jamais retourner par la grâce de Dieu. Et de la même façon que le Jourdain avait permis leur entrée, que Dieu avait ouvert le Jourdain, de la même façon, il l'a refermé. Il bloquait leur retraite. Alléluia. Que ce soit ainsi pour nous autres, de jamais regarder en arrière, mais fixer nos yeux sur celui qui a sauvé nos âmes, alléluia, devant nous. Et alors, c'est sûr que c'était un moment qu'on peut appeler un moment monumental, et je peux demander la question, avez-vous eu des moments monumentaux dans votre vie? La réponse est... certainement! Oui, il y a eu des... moment dans votre vie qui vous a impressionné, qui vous a marqué, qui vous a transformé, qui vous a changé dans votre vie lorsque vous avez traversé, vous vous rappelez, des ténèbres à la vie. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Je m'en souviens, un homme qui me témoignait lorsqu'ils allaient chez un évangéliste, Mario Mascotte. Il allait chez Mario Mascotte, chez eux, parce que c'était son voisin, mais lui, il n'était pas sauvé. Et puis, il me racontait ça, puis il dit, Jean, il dit, j'étais à l'extérieur de sa maison, puis il dit, j'avais des ténèbres dans ma vie. Mais il dit, aussitôt que je rentrais dans sa maison, c'était comme la lumière. Et naturellement, il était sauvé. Et Mario le conduit au Seigneur. Mais vous vous rappelez des ténèbres à la lumière. Peut-être un autre moment pour vous, c'était lorsque vous avez réalisé que vos péchés ont été pardonnés. Que vous avez été pardonnés. N'est-ce pas un moment monumental pour vous? Amen. Lorsque vous avez cru et que le fardeau a été enlevé. Alléluia. Lorsque vous avez réalisé que Dieu vraiment vous aime, que Dieu vous aime, que vous n'êtes pas seul, qu'il est là pour vous. Ça a été un moment monumental. Et puis, on peut avoir des expériences personnelles lorsque vous savez que c'est Dieu. Amen. Vous savez que juste des petites choses, dans les grandes choses, qui sont importants pour vous, vous reconnaissez la main de Dieu. N'est-ce pas vrai? Si je vous demanderais ce matin, il y aurait beaucoup d'histoires là-dessus. Je peux-tu vous raconter une histoire personnelle? Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais elle est bonne. Là, à peu près 3 semaines passées, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu notre fille, parce que notre fille et sa famille, ses enfants, nos petits-enfants, elle a 3 petits-enfants, ils vivent à Vernon, à Colombie-Britannique. Ça fait quelques années qu'on les a pas vus, COVID, avant ça, tout ça. C'était très difficile. Quoi qu'on la voit, ma femme la voit quasiment tous les jours par FaceTime ou par Skype, tout ça, mais c'est pas la même chose, hein, qu'avoir une collade. Les petits-enfants grandissent, tout ça. Puis là, on s'est mis, puis on a dit, là, 3 semaines passées, on a dit, on ressent que vraiment, il faut y aller. Et puis, est-ce qu'on peut prier là-dessus? Fait que moi et ma femme, on s'est arrêtés. Et puis, on a prié. On a dit, Seigneur, si tu peux ouvrir une porte, on aimerait ça, tellement ça, aller voir Michel et sa famille. Et puis, à peine 5 minutes après ça, on a un appel de son cousin et son époux, l'épouse de son cousin à Montréal. Pas à Montréal, il était à Montréal, il a déménagé en Ontario. Eux autres, ils ont dit, ouais, on pensait à vous autres, puis c'est pas des chrétiens. Ils disent, on pensait à vous autres, puis on aimerait ça, on veut, on planifie venir à Grand-Sault pour une semaine, parce qu'ils ont une tente qui reste là, à Grand-Sault. Alors, on planifie venir pour une semaine à Grand-Sault, puis si vous voulez, on pourrait aller chez vous, on pourrait prendre soin de vos chats. Parce que nous autres, nos deux chats, c'est comme nos enfants maintenant. Ils sont tellement importants pour nous autres, on ne veut pas les laisser tout seuls pour une semaine. On veut que quelqu'un vienne, prendre soin d'eux autres, leur donner de l'eau, la nourriture, et ainsi de suite. Puis, veux-tu qu'on vienne prendre soin de tes chats, prendre soin de ta maison, et ainsi de suite? 5 minutes après qu'on avait prié. Et ça, c'est un « God moment ». Hein, tout de suite, vous savez que Dieu, tu viens de prier, plouc, Dieu répond, et il y a une personne qui dit, on aimerait ça venir et passer une semaine, prendre soin de tes chats. On n'y a pas demandé de faire ça. Mais elle nous dit ça. Alors, on a dit oui. On a booké un flight pour en mois d'octobre. Wow! Un miracle! Que c'est ça que je parle ici. Des choses, et vous devriez les écrire des fois, pour ne pas les oublier. Comment Dieu agit dans votre vie d'une façon personnelle? Peut-être que ce n'est pas important pour les autres, mais c'est important pour vous. Et de savoir que Dieu agit. Et alors, les enfants d'Israël ont bâti un monument. Josué a bâti un monument comme témoignage pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Un jour, lorsque les petits-enfants vont dire pourquoi ça, ils vont expliquer comment est-ce que Dieu a agi pour eux autres, les a sauvés. Et je dis aujourd'hui, pourquoi pas bâtir un monument de votre vie comme témoignage à vos enfants et à vos petits-enfants? Pourquoi pas préparer quelque chose. Vous avez sûrement une histoire à dire. Vous avez une histoire à raconter. Vous avez une histoire à même écrire. Comment est-ce que Dieu vous a béni? Comment Dieu, vous vous souvenez comment Dieu vous a conduit un jour? Comment Dieu vous a béni d'une façon spécifique? Comment Dieu vous a utilisé pour quelque chose? Ou comment Dieu vous a touché, vous a guéri, vous a parlé? Par sa parole, vous a touché d'une façon spéciale et vous l'avez souligné. Hein? Il y a quelque chose là. Vous avez une histoire aussi à bâtir, comme Josué, qui a bâti pour les enfants, les petits-enfants. Vous autres aussi, vous avez une histoire à raconter à la personne ou les personnes, que ce soit vos enfants, vos amis, n'importe. Mais Dieu va ouvrir les portes afin que vous puissiez vraiment raconter l'histoire de la main de Dieu dans votre vie. L'importance, c'est le premier point, l'importance de bâtir un monument spirituel. L'importance de cela pour vous. Et deuxième chose, c'est l'importance de savoir qui est en charge. Dans Josué chapitre 5, j'aimerais lire quelques versets, là, de versets 13, dans le chapitre 5, ça nous dit ceci, verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Ils parlent de Gilgal, ils arrivent en Canaan, et là, en Canaan, ils ont leur premier défi. C'est quoi leur premier défi? Le premier défi, c'est Jéricho. Et ça nous dit que les Amoriens et les Cananiens apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain et ils perdirent courage et furent consternés. Ils ont entendu parler de cela. Et ils avaient peur maintenant. Et Josué dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. C'était fort, c'était une forteresse. Dans le King James Version, ça dit « strongly fortified ».« Strongly fortified because of the Israelites ». Il était fortifié, Jéricho était fortifié très fort, était fortement fortifié, protégé, gardé. Et les murs étaient en réalité impénétrables. En réalité, il y avait 2 murs. Un premier mur, plus haut, deuxième mur. Et c'était impénétrable. Jéricho avait un oasis à l'intérieur, au milieu d'un désert. Et alors, il y avait de l'eau en masse pour le peuple à Jéricho. Il y avait la nourriture en masse pour eux autres. Et Josué n'avait aucune idée comment conquérir Jéricho, que Dieu avait dit de le faire. Il n'y a aucune idée comment. Encore, il faisait face à une impossibilité. Impossible de le faire. Et alors, Josué a obéi le Seigneur et a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et ça m'apporte à poser la question pour soi-même, dire, avez-vous des obstacles qui bloquent votre chemin? Et qui bloquent votre chemin avec aucune idée comment vous allez vous en sortir? Des problèmes que vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui va vous arriver? Des obstacles qui bloquent, qui arrêtent nos plans ou qui arrêtent, qui bloquent qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Bien sûr, au travers de notre vie, nous avons tous des blocages. On a tous des limites ou des obstacles ou des montagnes ou des défis à grimper. Et en fait, nous avons aussi, comme Josué, nous avons nos Jéricho dans notre vie. Mais pendant que Josué se grattait la tête, il voit un soldat imposant devant lui avec une épée, sortie une épée à la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Une épée à la main. Et Josué lui demande la question. Il dit, comme Josué était près de Jéricho, leva les yeux, regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et la réponse était non. Autrement dit, Dieu n'est pas pour ou contre. Dieu, il est pour tout le monde. Et on prie pour les Juifs, on prie pour la paix d'Israël, on prie pour eux autres, mais on doit prier pour les musulmans aussi. Et prier pour eux autres aussi, parce que Dieu, il n'est pas contre personne. Non, il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant parce qu'il savait c'était qui. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? C'est qui? Ce chef de l'armée de l'Éternel, vous pouvez bien le deviner, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est pas un ange, ça leur a dit. C'est pas un archange, non, c'est pas un chérubin, non, c'est l'Éternel des armées. C'est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est le Seigneur pré-incarné. C'est le Seigneur pré-Bethléem qui est là, c'est la deuxième personne de la Trinité qui est là. Ce chef qui est invincible, on le voit au travers de l'Ancien Testament aussi, pas juste dans le Nouveau. Dans le Nouveau, il s'est fait chair, il a habité parmi nous, mais il était toujours là. Il était là pour son peuple, il est encore là pour vous. Alléluia. Et il veut combattre pour nous, il veut combattre pour son peuple, il veut combattre pour Josué, et il est invincible, son épée à la main. Et en arrière du chef, il y a des milliers de l'armée céleste qui est là pour la guerre. Ils vont pourvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, qu'est-ce qu'il fait là, lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Eh bien, on réalise qu'il est là pour pourvoir une patrie pour les descendants d'Abraham, la promesse qui a été donnée dans Genèse. Il est là pour l'accomplir, il est là pour combattre pour eux, l'épée à la main. C'était un moment monumental pour eux autres, n'est-ce pas? Et pour Josué, Josué a venu littéralement face à face avec Yeshua, avec son épée dans la main. Les Amoréens et les Cananiens méchants avaient eu, on peut dire, la main haute sur les Israélites pendant 400 ans. Ils avaient toujours, c'était constamment l'ennemi qui les attaquait. Mais voici, le temps est venu. Le temps est venu et le Seigneur est là pour eux. Et je dis que pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, ça fait longtemps que la méchanceté a un free-for-all, si on peut dire ça en bon français. Un free-for-all, mais le chef de l'armée de l'Éternel est proche. Il revient bientôt, c'est sa promesse. Et il est là pour chacun de nous, pour vous, en tant que vous personnellement. Ça fait longtemps aussi que vous êtes harcelés peut-être par l'ennemi, mais sachez aujourd'hui que le chef de l'armée de l'Éternel est là, et il est là pour combattre pour vous. Comme il l'a fait pour Josué d'une façon personnelle, il veut le faire d'une façon personnelle pour vous et moi. C'est une bonne nouvelle, ça, oui ou non? Hein? Il est là pour combattre pour vous. Alléluia. Il est là pour vous. Il ne vous a pas abandonné. Alléluia. Non, regardez pas les circonstances. Regardez pas qu'est-ce qui se passe. Regardez à celui qui a l'épée dans sa main et qui combat pour vous. Alléluia. Il faut réaliser que c'est le chef qui est en charge. Il est en charge de vos problèmes, en charge de vos fardeaux, en charge de vos troubles, en charge de vos désappointements, même en charge de votre vie entière. Si vous l'avez placé entre ses mains, et il prend charge de votre vie entière. Alléluia. Le voyez-vous ce matin avec son épée sortie, tirée pour vous? Qu'est-ce qu'on fait dans des moments comme ça? Qu'est-ce que Josué a fait dans des moments comme ça? Lorsqu'il a dit, « Oh, tes souliers de cette place. » Oui, certainement. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et ça nous dit que Josué fit ainsi. Pourquoi ôtes-tu ses souliers? Bien, c'était un signe, c'était que le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. On enlève tout ce que nous avons de charnel et on vient devant lui dans sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire ôter, s'essuyer? C'est parce que ça veut dire que le lieu est saint, parce que l'Éternel est là, parce que Dieu est là, parce que sa présence est tout autour. Il est là et lorsqu'on réalise que le Maître est là, que le Seigneur est là, que notre Dieu est là, c'est temps maintenant de l'adorer, c'est temps de le louer. Et c'est qu'est-ce que Josué a fait? Il a commencé à louer le Seigneur. Laisse faire le problème de Jéricho. Dieu est ici et je vais l'adorer. Dieu est ici avec moi et je vais le louer de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et lorsqu'ils ont réalisé ça, il a commencé à louer Dieu. Le peuple de Dieu a commencé à louer Dieu. Saint, 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 à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le Dieu des armées. Réalisons ceci. Dans sa présence, c'est le temps de lui donner nos Jéricho. Dans sa présence, c'est le temps de délivrance. Il y a une délivrance pour vous et moi. Il y a toujours une délivrance. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une réponse. Il y a toujours un soulagement. Il y a toujours un baume qui peut être appliqué à votre cœur. Il y a toujours une épée. Et vous ne serez pas désappointé par celui qui est avec vous. Jamais désappointé. Et Josué, je vais vous dire, et le peuple de Dieu n'a pas été désappointé. Et alors, l'importance de bâtir un monument spirituel, vous avez quelque chose à dire dans votre vie. Et deuxièmement, l'importance de savoir qui est en charge, que Dieu combattra pour vous, que Dieu est là pour vous. Et troisième chose, l'importance d'adorer. Est-ce que je peux dire l'importance de pousser des cris de victoire, de pousser des cris de joie? Le psaume 47, verset 6, qu'est-ce que ça nous dit? Dieu monte, Dieu monte, Dieu agit, Dieu bouge, Dieu monte au milieu de quoi? Des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette, vous pouvez être sûr. Puis c'est qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Et alors, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça la solution. Au milieu, Dieu monte, Dieu agit, au milieu des cris de triomphe à l'Éternel. On a besoin de le bénir en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Oh, quelle merveilleuse leçon que le Seigneur nous enseigne et nous fait rappeler. Nous fait rappeler. Alors voilà ce que Josué et son armée a fait. Ils ont loué et adoré l'Éternel. Ils ont fait le tour de Jéricho, ça nous dit, une fois par jour, pour 6 jours, juste une fois, mais ils ont pris le temps de le faire. 6 jours. Ils ont fait le tour de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, c'était tout un job. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois, pas une fois, mais 7 fois, le tour avec leur trompette. Et finalement, lorsque les sacrificateurs sonnèrent leur trompette d'un son prolongé, le peuple poussa des grands cris. C'était des cris de victoire au nom de l'Éternel. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la muraille s'est écroulée et le peuple monta. Alléluia. Jéricho existe encore aujourd'hui. Et si vous allez voir un documentaire sur ça, vous allez voir qu'il y a 2 murs. Et de la façon que c'était fait, c'est que lorsque les murs s'est écroulés, le 2e mur a tombé. Mais c'était une côte, il a tombé, le 1er mur tombé, et ça a fait comme quasiment des marches pour monter. Ce n'était pas comme des montagnes, c'était juste pour monter. C'était juste une façon que Dieu l'avait faite, construite afin que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire. Dieu fait toujours les choses afin qu'on soit capable d'avoir la victoire. Frères et sœurs, même dans la défaite, il y a une victoire. Allez chercher. N'oubliez pas ça. Et Dieu était là. Et alors, c'était une grande victoire pour eux autres. Puis si on pense à la stratégie militaire ici, c'est une stratégie militaire la plus étrange que j'ai jamais entendue, moi. Si vous parlez de ça, un général, aujourd'hui, ils vont vous dire, t'es fou. On ne fera pas le tour de la ville comme ça. Ce n'est pas une stratégie militaire, mais si Dieu l'a commandé, on va le faire. Si Dieu va l'accomplir, il y a une raison. C'est parce que Dieu va avoir la gloire, pas l'homme. C'est Dieu qui nous rendra capables. Et Ésaïe 26 est un verset intéressant. Verset 12 dit, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, remarquez, tout ce que nous faisons, c'est toi. » C'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Hein? Il combattra, il a combattu pour Josué. Amen. Il va le faire pour nous autres. Autrement dit, il va nous rendre capables. Et tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. C'est lui qui le fait en nous, pour nous, par nous, autour de nous. On n'a rien à craindre. Alléluia. Amen. Si vous voulez un verset du Nouveau Testament, parce que vous dites, « Ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. » OK. Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. OK? Amen. C'est vrai. Et alors, si aujourd'hui vous vivez dans un, ou vous êtes sous un fardeau trop lourd, ou une douleur trop blessante, ou un projet trop grand, ou un obstacle trop rigide, rappelez-vous qui est en charge. Rappelez-vous que vous êtes sur une terre sainte. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Rappelez-vous qu'il est là pour combattre pour vous. Leurs trompettes et leurs cris de victoire ont imbibé toute l'opération militaire avec la louange. Étrange, n'est-ce pas? Mais la louange, encore une fois, je veux vous le relire. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Lorsque nous remplissons notre lieu avec des louanges, à notre Dieu, nous créons en réalité, avec l'armée céleste, nous créons une vibration. Une vibration de victoire, même qui secoue les murs, même qui déloge les pierres, même qui démolit les forteresses. Les forteresses spirituelles. Psaume 89 nous dit, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, et se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. » Amen. Quelle était la dernière fois que nous avons crié des cris de triomphe à l'Éternel. L'importance de le faire, l'importance d'avoir un esprit de louange, un esprit de victoire devant l'Éternel. Et alors, on a besoin de le louer lorsqu'on entre un désert, comme le peuple d'Israël qui est entré dans le désert. On a besoin de le louer lorsqu'ils sortent du désert, lorsqu'ils entrent dans le Canaan. Ils ont besoin de le louer lorsque Dieu a séparé les eaux par deux fois dans la mer Rouge et le Jourdain. On a besoin de le louer également lorsque Dieu ferme les eaux. On a besoin de le louer lorsqu'on traverse une autre étape, lorsqu'on traverse une difficulté, lorsque notre chemin est bloqué d'obstacles, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de le louer. C'est ça qu'on a besoin de faire. C'est pas un mystère. c'est la Bible. Je veux vous lire une portion de Psaume 95, je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous lire Psaume 95, versets 1 à 7. Il nous dit, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher devant notre salut. » Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui et c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Amen. Alors, bâtir un monument, savoir qu'il est en charge et d'adorer le Seigneur, de pousser des cris de victoire devant lui, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire au milieu de nos difficultés. Alléluia. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci que tu es là pour combattre pour nous. Merci que tu nous donnes toutes les forces qu'on a besoin lorsqu'on se dit en soi-même on n'est pas capable, qu'on puisse se souvenir que tu es là. Toi, tu es capable et tu vas nous rendre capables et tu vas combattre pour nous avec ton épée tirée. Merci pour qu'est-ce que tu fais pour ton Église dans ces derniers jours, Seigneur, d'épreuves qui est autour de nous. Même le monde entier est ébranlé. Mais Seigneur, nous ne sommes pas ébranlés parce que nous nous tenons sur le roc, Jésus-Christ. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin, je te prie au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit ensemble, Amen. Amen. Alléluia. Je vous demandais l'équipe de venir sur